Nous sommes le jeudi 15 février 2018. Soyez les bienvenus à l'écoute de nos programmes. Voici les titres de votre journal, Caroline Philippi. Bonjour.
Bonjour, Paul Jacoby a été trahi. C'est la thèse que l'ex-président du conseil départemental de la Haute-Corse a avancée hier devant la cour d'appel de Bastia pour justifier le détournement de fonds publics. Il a reconnu la fraude, le vol d'argent public, mais il s'est dit victime de la trahison des membres de son cabinet. Après 16 jours de grève, sortie de conflit hier soir pour le STC du service cardiologie de l'hôpital d'Ajaccio, un protocole d'accord pour la création d'un poste à temps plein d'aide-soignant a été signé par le directeur de l'établissement. Des sujets que nous développerons avec notre invité des petits déjeuners de la rédaction. Il est avec nous ce matin. Bonjour. C'est François-Xavier Tchécoli, maire de Sainte-Juliane, conseiller territorial Les Républicains, secrétaire départemental de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse. Il est avec nous donc durant une heure. Bonjour.
Bonjour.
Le procès de l'affaire des gîtes ruraux avec la déclaration hier de Paul Jacoby devant la cour d'appel de Bastia.
L'ancien président du conseil départemental de la Haute-Corse a reconnu la fraude et le vol d'argent public, mais à son insu, dans l'attribution de subventions destinées à la construction de gîtes. Paul Jacoby s'est dit trahi par les membres de son cabinet qui auraient abusé de la totale confiance qu'il leur avait accordée. Pierre-Louis Sardi.
Son ton est calme, posé. Face à la cour, Paul Jacoby le reconnaît. Il y a eu vol d'argent public, il y a eu fraude, mais à son insu, dit-il. Et il n'en savait rien, car il a été trahi par ses deux plus proches collaborateurs, Dominique Viola et Dominique Domarchi. Il les accuse d'être directement intervenus dans la constitution des dossiers frauduleux, puis d'avoir fait pression sur Jean Letch, le directeur des services qui a préféré tout dissimuler. Jean Letch, qui a lui aussi trahi sa confiance. « J'ai mis du temps à le reconnaître parce qu'un homme politique, c'est orgueilleux, dit-il, et il a tort de prétendre qu'il a toujours raison. » Son avocat, maître Alexis Gublin.
Le principe de la trahison, Paul Jacob l'a encore redit ce matin, on n'est jamais trahi que par les siens. Ce sont toujours les proches qui trahissent, parce que ce sont ceux en qui on a confiance et ce sont ceux à qui on est capable de laisser gérer quelque chose. Il reconnaît qu'il a commis une faute politique, une faute morale, en n'étant pas là plus souvent et en faisant confiance à des gens qu'il considérait comme de véritables proches.
Paul Jacob y trahit et qui ne savait rien, c'est faux, répond maître Jérôme Carsanti pour l'association Anticor qui lutte contre la corruption des élus.
Non, ça n'est pas vrai. Ce qui est vrai, probablement, c'est que le cabinet avait un rôle anormal, mais ce qui est vrai surtout, c'est que M. Paul Jacoby non seulement le savait, mais l'a couvert. Il y a un système clientéliste, bien sûr. Tous les gens qui ont bénéficié de ces gîtes sont des proches, soit localement de M. Jacoby, soit des membres du cabinet de Paul Jacoby.
À ce jour, Dominique Viola est le seul collaborateur de Paul Jacoby encore vivant. Les deux autres ont été assassinés et lui n'a jamais été mis en cause dans ce dossier.
Alors, on vient d'entendre François-Xavier Tchécoli, vous êtes avec nous ce matin pour ces petits déjeuners de la rédaction. C'est difficile de commenter des décisions de justice ou des affaires en justice qui mettent en cause des élus. La justice qui estime que dans cette affaire, il y a eu un enrichissement personnel de certains élus ou aux fonctionnaires, tous les prévenus s'en défendent. Est-ce que lorsque l'on est élu dans ce type d'institution, il n'y a pas à un moment un risque de dérive ?
Écoutez, oui, c'est effectivement difficile de commenter une décision de justice, et d'autant plus que le procès est en cours. Toutefois, on ne peut nier que même si ça reste à la marge, il peut arriver ce genre d'affaires en matière de gestion des fonds publics. Alors, ça reste une affaire très compliquée, puisque je pense que c'est un élément très important et très prégnant. Vous avez une partie des gens mis en cause qui sont aujourd'hui décédés. Vous avez une vérité donc qui est forcément partielle, puisqu'il est difficile pour certains de se défendre et de répondre aux accusations que j'ai pu encore entendre lors de votre présentation. Donc on est dans un cas particulier où apparemment l'infraction est caractérisée. Concernant les responsabilités, ça a l'air d'être très complexe, puisque les choses ont l'air changeantes, y compris d'ailleurs, on le voit bien, entre le premier procès et celui qui se tient actuellement en appel.
L'avocat d'Anticor parle d'un système clientéliste. C'est l'exemple du clientélisme que l'on peut dénoncer, notamment lorsque l'on est élu également de son côté, et lorsque l'on a décidé de mettre fin à ce clientélisme, à ce système de clan. Là, on est en plein dedans dans cette affaire.
Oui, tout à fait. Je crois que ce n'est qu'une partie d'ailleurs de tout ce qui a pu exister ces 15 dernières années, notamment au Conseil général et puis peut-être aussi à la collectivité territoriale de Corse un temps. C'est une dérive qui malheureusement est assez courante, parce que notre population, un peu plus de 300 000 habitants, notre système, le fait qu'on ne privilégie pas toujours l'ascension au niveau du mérite, mais également le fait que l'on a encore ces vieux réflexes d'aller trouver un élu pour lui demander une place, pour la fille, le fils, etc. Et ce, souvent, malgré le fait que ses enfants aient des études ou aient réussi, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à changer. Parce que dans ce genre d'affaires, il faut bien sûr des gens qui corrompent, entre guillemets, mais il faut aussi des gens qui aient encore le réflexe d'aller demander ce genre de choses. Donc ça nous montre bien que pour que la Corse évolue, il faut changer les mentalités, mais il faut aussi donner des moyens économiques pour que les gens puissent travailler et vivre de ce travail.
On va parler de justice encore avec Pierre-Marie Gironi, qui était hier devant le tribunal correctionnel de Bastia. 8 mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende ont été requis contre l'ancien président du Sporting. Il est poursuivi pour avoir émis 38 chèques sans provision entre mai 2015 et juillet 2016. À l'audience, Pierre-Marie Gironi a assuré qu'il n'était pas au courant pour la bonne et simple raison qu'il n'aurait reçu aucune notification officielle de la banque lui interdisant d'émettre des chèques. Ses avocats ont demandé la relaxe. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars. François-Xavier Tchécoli, on va passer à présent au social avec une bonne nouvelle. Après 16 jours de grève, c'est la sortie de conflit hier soir pour le STC du service cardiologie de l'hôpital d'Ajaccio. Un protocole d'accord pour la création d'un poste à temps plein d'aide-soignant a été signé par le directeur de l'établissement. Le STC demande néanmoins qu'une étude soit menée sur la charge de travail qui incombe au personnel. On écoute les précisions de Françoise Chinard, qu'elle est déléguée santé du STC.
Je pense que à un moment, il a fallu peut-être enfoncer des portes pour qu'on soit entendu, écouté et compris.
Et il a souvent été question de moyens financiers qui n'existaient pas pour l'hôpital.
On nous a beaucoup parlé de moyens financiers, ce qui est aussi le nerf de la guerre pour les hôpitaux. Mais pour nous, le nerf de la guerre, c'était la première de nos revendications, la qualité des soins. Après, justement, cette création de poste, il est sûr qu'il y aura une nouvelle charge de travail, une révision à 6 mois, à savoir que ce poste, il est acté et il est jusqu'au nouvel hôpital.
François-Xavier Tchécoli, on vient d'entendre donc cette syndicaliste qui parle de la qualité des soins qui est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, faute de moyens, c'est difficile de l'assurer. Alors Emmanuel Macron, lors de sa venue en Corse, a évoqué le système de santé avec des fonds pour la construction de l'hôpital d'Ajaccio, mais aussi pour poursuivre des travaux à l'hôpital de Bastia. Aujourd'hui, du côté des élus en Corse, est-ce que le système de santé est une priorité ?
Complètement. Complètement, le système de santé est une priorité absolue en Corse. D'ailleurs, au titre de notre programme lors des élections de décembre qui se sont tenues, nous avions parlé de plan Marshall pour la santé en Corse. Un plan Marshall parce que le niveau aujourd'hui des soins va malheureusement non pas crescendo, mais à l'inverse. La désertification continue de faire rage au niveau de la représentation, ne serait-ce que des médecins généralistes. Et vous l'avez souligné à de nombreuses reprises, nous avons un niveau de service dans les hôpitaux des deux grandes villes qui est aujourd'hui de moins en moins efficient. Alors, c'est là aussi où peut-être, si vous me permettrez, je parlerai des choses prioritaires. On va sans doute en parler, non ? On est en plein débat institutionnel. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les vrais problèmes que rencontre la Corse, ce sont ce type de problèmes, et notamment le problème de la santé. Donc, je crois qu'il s'agit peut-être d'être un peu plus efficace, d'aller un peu plus au fait des vraies difficultés des gens. Et c'est sur ce genre de sujet qu'il faut à tout prix négocier. Je pèse mes mots, pragmatisme, négocier, non pas penser qu'on va imposer. Négocier des fonds sur une durée à court et à moyen terme avec l'État pour pouvoir répondre à ces deux problématiques au niveau de la santé que sont les hôpitaux d'un côté, mais également les services de proximité.
D'autant que vous êtes maire de Sainte-Julienne dans la plaine orientale, où là, il y a eu une désertification au niveau de l'offre de santé. Ça fait des années que certains demandent une antenne médicalisée. Ça fait des années qu'on demande plus de généralistes dans cette micro-région. Aujourd'hui, vous en êtes où ?
Ben écoutez, alors chez nous, on est encore à la limite justement de ces difficultés puisqu'on est au nord de la plaine orientale. Alors on reste sur des distances relativement cohérentes par rapport à Bastia, mais juste un peu plus au sud, Ghisonaccia, effectivement, Allier, il y a Prunelli di Fiumorbo. Il y a ces vraies difficultés. Je sais que beaucoup de choses ont été annoncées, beaucoup de choses ont été programmées. C'est encore un des problèmes de la Corse. On programme beaucoup, on étudie beaucoup, mais finalement, on réalise peu. Et à ce niveau-là, il est clair qu'il y a un véritable manque. Alors, on parle de maison de la santé. C'est sans doute une approche qui semble raisonnable puisqu'elle permettrait d'apporter un vrai service sur des pathologies différentes. Mais pour ce faire, encore une fois, il faut s'attacher à ce problème, négocier un véritable plan. On ne peut pas dire chacun de notre côté, on va résoudre le problème, par exemple, de le Fumourbe et laisser certains secteurs de la Balagne à l'abandon.
Alors, on va rester dans votre micro-région. On va revenir à présent sur les incendies qui, début janvier, ont ravagé près de 2000 hectares du côté de la plaine orientale. Plusieurs maisons ont été détruites. Dominique Martel y est dans ce cas. Sa maison située à Quiatre a été détruite par les flammes. Et malgré la solidarité qui s'est mise en place, il se sent aujourd'hui abandonné, principalement par les autorités. Et donc, il s'en explique au micro de Christophe Giudici.
Depuis le début, depuis l'incendie où personne nous a prévenu de l'arrivée du feu, personne ne nous a fait évacuer, personne ne nous a pris en charge à aucun moment jusqu'à aujourd'hui. On n'a pratiquement eu aucun contact avec les autorités, qu'elles soient publiques, quelles qu'elles soient. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune aide matérielle ni morale, on a été livrés à nous-mêmes. Et personne n'a pris contact avec nous pour nous aider. Moi, le seul élan de solidarité, il a été puissant, c'est celui de mes amis, de ma famille, proche, qui nous ont aidés. On a dû louer un appartement, on est sur Bastia et on cherche à remonter un peu la pente, mais c'est très difficile parce qu'il faut s'occuper des suites et du sinistre et il porte bien son nom, c'est sinistre. Mes demandes, essentiellement, ce serait qu'il y ait un retour d'expérience concernant ce qui s'est passé.
Alors, au lendemain de ces incendies, il y a tout un système qui s'est mis en place de solidarité. Alors, Dominique Martel y en parle, une aide familiale des habitants, mais pas des autorités. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'a fait la collectivité, par exemple, face à ces incendies? Est-ce que ça a été évoqué lors des sessions? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises?
Alors, écoutez, non. Pour être franc avec vous, pour l'instant, au niveau de la collectivité, en dehors, bien évidemment, d'avoir pris une introduction pour parler de ces incendies et d'apporter un soutien, on ne peut pas dire qu'il y ait eu vraiment d'approche précise de cette problématique. D'ailleurs, si vous me le permettrez, je vous dirais que la collectivité est toujours dans une phase d'installation qui, je trouve, commence à durer, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 3 séances, on en a une autre le 22, et finalement, à part avoir désigné les représentants dans les différents organismes...
Il n'y a rien de concret, quoi.
Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de concret. Je ne suis pas sûr, comme nous émettions cette inquiétude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous soyons totalement en capacité à travailler dans les délais qui nous incombent au vu des responsabilités qui sont les nôtres. Et là-dessus, je pense aussi qu'il va falloir vite changer de braquet parce que la Corse est dans l'attente, la commande publique est dans l'attente, le règlement des communes et les aides, tout le monde les attend au niveau des élus. Donc, il y a une vraie prise en compte à réaliser. Pour répondre un peu plus précisément à votre question sur les incendies, moi, je comprends très bien la détresse de M. Martel, hein, et notamment des habitants de Tiatre qui ont été touchés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un véritable élan de solidarité, puisque sur ma commune, nous avons abrité plusieurs dizaines de tonnes de produits qui sont arrivés. Et encore une fois, il faut remercier la solidarité dans son ensemble en Corse, qui a été exceptionnelle, au niveau des vêtements, au niveau des consommables, au niveau de la nourriture. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut se faire qu'en deux temps. Il y a cette première vague qui a eu lieu. Et ensuite, il y a une vague qui est un peu plus institutionnelle, où il s'agit d'utiliser l'argent à bon escient, notamment l'argent que vous avez récupéré au niveau de votre action avec Corse Matin, exactement, où je crois qu'on doit être dans les 200 000 euros.
Hein. À peu près, oui, c'est ça.
C'est ce qui est énorme, rien que vous. Et si vous voulez, ce qui est important dans ce genre de choses, c'est qu'on ne peut pas se rater. On ne peut pas se permettre, avec des fonds, à un moment donné, de donner trop, peu, pas assez, voire pas du tout à des gens qui auraient mérité. Donc, il y a une phase un petit peu d'audit et de responsabilisation qui se met en place. Pour vous donner juste un élément, mais un seul, le 21 février, une commission se réunit à Tiadre, sous l'égide de M. le sous-préfet de la mairesse de Tiadre, pour justement étudier au cas par cas les sommes à allouer en fonction des problèmes. Aujourd'hui, c'est vrai que l'action principale s'est portée pour l'urgence et bien évidemment pour les éleveurs.
Eh bien, merci pour toutes ces explications et puis pour cette information sur le 21 février. François-Xavier Tchécoli, on se retrouve pour commenter l'actualité hors de Corse. Ce sera à 7h30. En attendant, je vous laisse entre les mains d'Isabelle Dondignat.
Merci.
Dans quelques instants, on retrouve l'invité des petits déjeuners d'RCFM. On va écouter son choix musical, si vous le voulez bien. Il s'agit d'un extrait d'une bande originale, juste avant la chronique sport. Thank you.
les femmes. Tu fais du mensonge et du charme un art de vivre, un art d'aimer. Tout est selon ta volonté. Dans une main, les oiseaux d'Afrique. Dans l'autre, un building d'Amérique. Tu t'amuses à tout réussir. Tu joues à gagner pour séduire. Il a des reflets argentés. L'itinéraire d'un enfant gâté. Il est semé de jouets cassés. L'itinéraire d'un enfant gâté.
Cette bande originale signée Nicole Croisy est celle qui ponctue le film que vous aimez beaucoup, Itinéraire d'un enfant gâté. Je vous rappelle que l'invité des petits-déj est François-Xavier Tchicol et vous venez d'entendre son choix, l'un de ses choix, hein, François-Xavier.
Oui, tout à fait. Ça le fait, ça le fait.
Pourquoi ce film ?
Ben écoutez, ce film, déjà, bon, c'est les bonnes années quand j'étais étudiant à Paris, en école d'ingénieur. Et puis, c'est surtout que c'est un film qui porte, un film de Lelouch, qui porte beaucoup de messages. Hein. On a à la fois ce qui me tient à cœur au niveau de mon engagement politique, c'est-à-dire l'ascension sociale. On a le héros qui démarre de rien et qui, petit à petit, à force de travail, de conviction, d'énergie et de talent, réussit à prendre cet ascenseur social, à créer une société qui fonctionne. Mais dans un esprit, encore une fois, où tout le monde doit en sortir, un esprit participatif, c'est-à-dire avec une société familiale où les gens travaillent. Et on y retrouve ensuite un petit peu tout ce qu'il fait, le fort du film français, c'est-à-dire l'amour, la trahison, la volonté de changement, le départ, la mort. Voilà, donc c'est un film qui est à la fois émouvant et qui permet aussi de distiller des sentiments de manière forte.
Est-ce que votre rôle d'élu et puis également votre profession d'agrumiculteur vous permet de faire encore un petit peu de sport, François-Xavier Tchicol ?
Alors,
ou d'aller au cinéma, les deux.
Pas assez. Alors, un petit peu, oui, un petit peu de footing. Bon, j'ai beaucoup fait d'arts martiaux quand j'étais plus jeune. Alors, j'essaie de continuer un tout petit peu, mais pas assez aussi. Mais voilà, un petit peu d'entretien, un petit peu de footing. Et puis l'été, quelques sports de plage comme la planche à voile et autres. Voilà, toujours pas assez, mais quand même un minimum.
Un peu de chasse aussi, je crois.
Voilà, alors c'est vrai
que pour moi... On peut considérer ça comme un sport.
Voilà, tout à fait.
Vous randonnez pas mal, du coup.
Voilà, alors c'est vrai que la chasse, c'est un petit peu beaucoup la tradition familiale, puisque c'est plus qu'un sport, effectivement. C'est aussi, en Corse, hein, pour de nombreuses familles, quelque chose qui relie les générations, où les grands-parents apprennent aux parents, qui apprennent eux-mêmes à leurs enfants. Et c'est vrai que moi, je suis dans une famille où la chasse a toujours été très importante, notamment mon grand-père qui s'appelait Xavier Ujico, dont je porte le prénom. Alors, tu dis à ma mon Francesco Xavier, mais vous dis à ma doudou Xavier Ujico. Voilà, ça doit parler à pas mal de vos auditeurs. Et c'est vrai que dans ma famille, par exemple, presque tout le monde a le permis de chasse. Ça se fait dans le respect, bien évidemment, de la chasse telle qu'elle doit être, dans le respect aussi des animaux. Et puis, je pense aussi dans le respect des cultures, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de régions de Corse, il y a quand même un souci de surpopulation avec, par exemple, avec les sangliers. Et que si les chasseurs n'étaient pas là, eh bien, il y aurait des sangliers dans les villes encore plus qu'aujourd'hui.
Une absence de régulation. Ouais. Et déjà, il y en a beaucoup.
Et voilà. Et déjà, il y en a beaucoup. Mais vous vous apercevez que d'ailleurs, ce beaucoup, c'est au droit des villes où ils sont moins chassés. Donc, tout ça doit participer d'un équilibre, hein, tout simplement. Et voilà, je pense que la chasse, une fois qu'elle est réalisée par des gens sérieux et honnêtes, n'ont pas de ces gens dont on voit trop les tableaux de chasse sur Internet, c'est plus de la chasse ça, elle participe à l'équilibre environnemental.
Est-ce que vous avez adhéré enfin aux socios, du SCB.
Alors, moi, j'ai jamais été aux socios du SCB, mais je vais voir 5 à 6 matchs par an, de la même façon que j'y allais précédemment.
Même si vous préférez le rugby, c'est bien clair.
Voilà. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est... Voilà, voilà, tout à fait. Moi, j'ai plutôt été élevé au biberon du rugby. Mais bon, là, c'est pareil que pour la chasse. Le Sporting Club de Bastia, c'est l'histoire de la Corse. C'est même pas l'histoire de Bastia ni de Haute-Corse.
Bien au-delà d'une équipe de foot.
C'est bien au-delà d'une équipe de foot.
France Bleu, RCFM.
Nous recevons François-Xavier Ciccoli, 50 ans, François-Xavier.
Dans quelques mois.
Pardon. Agrumiculteur, élu maire de Sainte Juliane en mai 2014. D'ailleurs, c'est vous qui avez inauguré votre très jolie nouvelle mairie et salle polyvalente. Elle est utilisée comme vous le désiriez au départ.
Oui, tout à fait, parce que d'abord, cette salle se trouve dans un secteur où il n'y avait pas d'équipement de ce type, hein, c'est-à-dire qu'entre Santa Lucia e Moriani et Alère, il n'y avait pas de salle polyvalente,
d'infrastructure de ce type.
Donc ça a permis de répondre non seulement à l'attente de la population de Sainte-Juliane, mais même des communes environnantes. Et c'est vrai que cette salle, d'abord, elle sert pour tout ce que vous pouvez imaginer, les mariages, toutes ces choses très agréables, les mariages, les baptêmes, les communions, mais elle sert aussi pour l'aspect éducatif et également pour ce qui est des activités, des associations, que ce soit le yoga, les arts martiaux ou le reste. Donc elle est très utilisée, oui.
Avant d'être agrumiculteur, François-Xavier Ciccoli, vous avez eu une première vie, parcours complet, ingénieur de travaux publics de formation. Vous avez fait allusion tout à l'heure. Dans une première vie, vous vous êtes intéressé à la construction de ponts, routes et autres ouvrages de génie civil. Vous arrivez encore à exercer votre métier?
Alors lequel?
D'agrumiculteur. Le premier, on a bien compris que c'était du passé.
Voilà, tout à fait. Oui, j'ai eu la chance, effectivement. Alors, c'est parce que tout simplement, je viens d'une famille d'agriculteurs et que j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, il fallait bien veiller au grain sur les deux. Et donc, j'ai eu une première partie de ma vie où j'ai travaillé sur des routes, sur des ponts. Et je vous avoue que c'était un métier assez fantastique dans le sens où chaque jour ne ressemble pas à la veille. Et la chance qu'on a quand on a construit quelque chose, c'est qu'on va repasser dessus en voiture, en avion ou autre. Et
c'est toujours une satisfaction personnelle.
Voilà, du travail d'équipe. Alors maintenant,
qu'est-ce qui vous a fait vous en détourner?
Alors écoutez, tout simplement l'envie de faire autre chose. Je crois que maintenant, les hommes et les femmes, et c'est vrai que c'est pareil en politique, on n'est plus sur forcément une carrière, une vie. On peut faire plusieurs choses de sa vie. L'avantage que ça donne, c'est qu'on sort un peu de la routine. Moi, j'avais travaillé pendant presque plus de 15 ans, presque 20 ans d'ailleurs, dans le domaine de la construction. J'ai travaillé sur des ponts, sur des tunnels, sur des barrages. Et c'est vrai que quand on fait un peu le tour de la question sans prétention aucune, et qu'à côté de ça, il y a un challenge comme par exemple l'agriculture corse, eh bien, on s'y retrouve. Donc, ce n'est pas par dépit, c'est vraiment pour voir autre chose.
Vous êtes souvent sur le continent, amené à exercer vos fonctions du côté de Cavaillon pour la commercialisation, notamment des clémentines corse. C'est un plus de faire sauter les intermédiaires dans cette chaîne?
Alors, écoutez, c'est tellement un plus que ça a été tout simplement vital. Hein. Si je reprends la situation de l'agrumiculture corse dans les années, fin des années 90, début 2000, c'est une faillite de quasi toutes les structures existantes. C'est une disparition annoncée du verger de clémentine corse. Et juste un chiffre pour vous marquer, c'est une période où la clémentine corse se vend moins cher que la clémentine espagnole. Alors ensuite, à partir de ça, vous avez eu la qualité, l'IGP et tout ce qui a conduit à cela. Mais il fallait également apporter une réponse. C'est rarement une seule réponse qui permet de sauver une filière, c'est plusieurs. Il fallait apporter une réponse sur le commerce. Et le commerce s'est fait en mettant en place des systèmes de relations commerciales directement avec la grande distribution, ce qu'on appelle la GMS, de manière à faire sauter tous les intermédiaires qui, bien évidemment, chaque intermédiaire ponctionnait une partie de la recette.
7h30, Caroline Philippi, bonjour.
Bonjour.
Des aveux et une découverte. L'enquête sur la disparition de la petite Maëlys a connu hier une avancée majeure.
Oui, Nordal Lelandais a donc avoué avoir tué Maëlys, alors que depuis la disparition de la fillette, c'était dans la nuit du 26 au 27 août dernier, il criait son innocence. Sur ses indications, le crâne et un os appartenant à la fillette ont été retrouvés dans le massif de Chartreuse, sur la commune de Saint-Franc, en Savoie, une dizaine de kilomètres de pont de Bon Voisin, où avait eu lieu la fête de mariage, où la fillette avait avait disparu. Pour autant, Véronique Pueyo, l'affaire est loin d'être terminée.
Dès aujourd'hui, si la météo le permet, les recherches sur le terrain vont reprendre pour retrouver d'autres parties du corps de Maëlys. Des ossements qui vont être minutieusement analysés pour tenter de savoir comment l'enfant est morte si elle a subi des violences. Mais le travail risque d'être difficile car le corps a séjourné près de 6 mois dans un ravin livré aux prédateurs. En effet, quand il s'est débarrassé de sa victime, Nordal Lelandais ne l'a pas enterré, il l'a abandonné à même le sol. L'ancien militaire dit qu'il a tué la fillette accidentellement. Il n'a pas voulu expliquer pour l'instant ce qui s'était passé. Il devrait être prochainement réentendu par les juges d'instruction sur ces zones d'ombre. L'affaire Maëlys est donc loin d'être terminée. Il y a encore beaucoup d'investigations à mener, a souligné le procureur de la République de Grenoble.
François-Xavier Tchécoli, vous êtes notre invité ce matin des petits déjeuners de la rédaction. Difficile de commenter une telle affaire, sinon qu'en tant que citoyen, dénoncer l'horreur de ce type d'événement.
Ah oui, on reste sans mots devant une telle situation. Alors bien sûr, on s'attendait tous à ce que cet homme finisse par avouer, puisqu'apparemment les faits, les recoupements conduisaient sur sa culpabilité. Mais on n'en reste pas moins abasourdi. On a du mal, ne serait-ce qu'à imaginer que ce soit possible. Alors tout ce qu'on peut espérer, c'est que les condamnations là soient d'une fermeté exemplaire. Il n'y a pas d'autre crime plus odieux que de tuer un enfant de cet âge.
Alors on va rester dans la justice avec, déjà visé par une plainte pour viol, Gérald Darmanin est désormais confronté à une enquête pour abus de faiblesse. Une femme accuse le ministre de l'Action et des Comptes Publics de lui avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'un logement lorsqu'il était maire de Tourcoing. Ça va mal en ce moment pour les élus. De ce côté-là, on a eu le hashtag balance ton porc, mais aujourd'hui, les élus en France ont des soucis. Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, alors évidemment, ils sont présumés innocents, hein, la présomption d'innocence fonctionne, mais il y a quand même pas mal d'élus qui sont éclaboussés. Darmanin, c'est d'ailleurs un ancien de chez vous, les Républicains.
Oui, tout à fait. Alors, balance ton porc, ce n'est pas uniquement les élus, hein, vous avez remarqué, dans le bon et dans le mauvais sens. Non, mais plus sérieusement, je crois que... Moi, je vois deux paradoxes dans ces affaires qui sortent vraiment de manière maintenant régulière. Une première qui est indéniable, où on voit qu'il y a une liberté de parole qui a enfin abouti, c'est-à-dire qu'il est clair, aujourd'hui le nier, ce serait se mentir, que beaucoup d'affaires ont existé de manière scandaleuse, qu'il y a eu vraiment des gens qui ont abusé de leur pouvoir, qu'ils soient au titre de producteur de cinéma, au titre d'élu, au titre peut-être de chef d'entreprise, à différents titres, je parle de pouvoir, pour obtenir, dévoyer des faveurs, ce qui est tout à fait condamnable et j'espère tout simplement que ça sera condamné. Alors là-dessus, je pense que ça a un effet extrêmement favorable et il faut que cette parole qui s'est libérée continue de l'être. Ensuite, là où je pense qu'il faut garder une certaine prudence, c'est qu'il faut que, à chaque fois vérifier que cela corresponde à une réalité. C'est-à-dire que peut-être tout simplement espérer que des personnes qui ont des comptes à régler avec des élus ou autres, et ce qui s'applique aujourd'hui à des hommes peut très bien s'appliquer demain à des femmes, hein, attention, de la même façon, hein, vérifier que les faits soient avérés. C'est-à-dire imaginer par exemple le cas d'une mère de famille qui est accusée elle aussi de harcèlement ou autre, et qui finalement, à la fin de la période d'analyse ou judiciaire, eh bien on s'aperçoit qu'elle était innocente. Vous savez très bien qu'il en restera quelque chose. Hein,
c'est-à-dire qu'on jette trop souvent des noms comme ça en pâture lorsqu'il n'y a peut-être rien derrière et on éclabousse, par exemple, peut-être Darmanin n'a rien à voir avec ce qui lui est reproché. Aujourd'hui, son nom est jeté en pâture, il est éclaboussé et peut-être qu'à la fin, ça débouchera sur rien.
Alors, exactement. Alors, je suis très à l'aise là-dessus parce que alors, je n'ai envie ni de vous défendre, ni de vous enfoncer, M. Darmanin. Pour moi, c'est totalement neutre. Il pourrait s'appeler Dupont, ça ne change rien à mon analyse. Mais il est clair que ce à quoi il faut faire attention, c'est être d'une virulence inouïe et les condamnations les plus sévères possibles quand les faits sont avérés. Mais garder un minimum de prudence sur la fameuse présomption d'innocence parce que vous savez très bien qu'une fois qu'on a été attaqué ou sali sur ces affaires-là, il en restera toujours quelque chose, même si la justice demain vous acquitte. Donc l'équilibre, il est très précaire et il faut arriver à trouver des solutions qui ne sont pas simples à mettre en œuvre.
Alors on va passer à toute autre chose à présent avec le Salon de l'agriculture qui approche à la fin du mois. Les agriculteurs, eux, sont toujours en colère. Ils manifestent chaque semaine un peu partout pour dénoncer les prix bas imposés par les distributeurs. Et c'était le cas à Vichy, dans l'Allier, action d'une quarantaine d'éleveurs. On écoute l'un d'entre eux, Ludovic Cornil.
Se faire écouter par rapport aux prix qui sont non respectés. Nous, on ne travaille pas avec des prix rémunérateurs, on ne peut plus se tirer de revenus, on ne peut plus vivre. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est encore un ras-le-bol. Chaque semaine, la viande perd de la valeur. On ne nous achète plus au prix coûtant et voilà, et on n'arrive plus à vivre, quoi. La grande distribution est ciblée aujourd'hui, oui, parce qu'on trouve encore de la viande de d'autres pays que de l'origine France. Et voilà. Après, il y a des chartes qui ont été signées et ne respectent pas forcément leurs engagements. Donc après, elles ne jouent pas le jeu. Non. S'il faut aller taper plus haut, on ira taper plus haut. On a des rendez-vous de fixer avec Madame la députée sur Vichy. Donc on verra bien ce qu'on peut nous proposer pour la suite.
François-Xavier Tchécoli, on va le répéter, vous êtes agrumiculteur. Vous êtes également à la tête de Fruticor, du GIE Corsica Comptoir. Lorsqu'on regarde la situation des éleveurs sur le continent ou des agriculteurs, on a l'impression qu'ici, en Corse, on est un petit peu protégé parce qu'il y a beaucoup de manifestations d'agriculteurs sur le continent et très peu de manifestations ici. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y a pas de mobilisation ?
Alors, bon, bien évidemment, il y a des problèmes, hein, c'est une évidence, hein, et on les connaît assez, des problèmes notamment sur le foncier. Maintenant, il y a des problèmes qui deviennent prégnants sur l'irrigation. Il y a des problèmes qui ont tendance à se résoudre petit à petit, mais également des problèmes bancaires, des problèmes de financement, des problèmes d'investissement. Ce qui est certain en Corse, c'est qu'on a affaire à une diversité en matière agricole qui est extrêmement large. Le spectre est très large. On va partir de filières végétales où aujourd'hui, il faut savoir dire quand les choses vont à peu près, hein, pas toujours pleurer. Des filières végétales comme par exemple le vin, le raisin, le vin, les agrumes donc, pour parler également des noisettes, qui fonctionnent à peu près, qui sont structurées, dont l'offre commerciale est aujourd'hui à un niveau qui semble cohérent. Et à côté de ça, nous avons d'autres filières, notamment de l'élevage, dont je ne suis pas un spécialiste, alors je ne vais pas trop m'étendre, mais où il est évident qu'il existe des problèmes qui sont prégnants et auxquels sont confrontés les agriculteurs. Donc effectivement, il y a quelque chose d'assez partagé en matière d'agriculture en Corse, contrairement au continent où ça a l'air d'être compliqué un peu dans tous les domaines.
Alors on va finir avec deux mots de football. Hein. Vous avez suivi le match hier soir. Oui. Le Real de Madrid, tenant du titre, a livré un match époustouflant face au PSG avec un doublé de Cristiano Ronaldo pour prendre un net avantage par rapport au match retour. C'est-à-dire qu'ils ont fini avec un score de 3-1.
Dans l'actualité régionale, Caroline, le cycle hebdomadaire des rencontres entre les élus et le gouvernement se poursuit.
Après la réunion d'avant-hier, une nouvelle réunion est prévue mardi prochain à Paris pour parler cette fois de foncier, de fiscalité. Le 27 février, c'est Jacqueline Gourault qui devrait être dans l'île. Plusieurs ministres sont également attendus dans les 4 prochaines semaines. Le procès de l'affaire des gîtes ruraux, hier devant les magistrats de la cour d'appel de Bastia, Paul Jacob y a reconnu qu'il y a bien eu fraude au sein du conseil départemental de Haute-Corse qu'il présidait. Il a concédé le vol d'argent public, mais à son insu, affirmant avoir été trahi par les membres de son cabinet qui ont abusé de sa confiance. Pierre-Marie Geronimi devant le tribunal correctionnel de Bastia hier. 8 mois de prison, 30 000 euros d'amende ont été requis contre l'ancien président du SCB, poursuivi pour avoir émis des chèques sans provision entre mai 2015 et juillet 2016. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Il partage notre petit déjeuner depuis 7h ce matin. François-Xavier Tchécoli répond à vos questions, Caroline Philippi.
Oui, vous avez pas mal de fonctions politiques, on va le rappeler. Vous êtes maire de Sainte-Julienne, conseiller territorial de droite dans le groupe de Valérie Bodzi, secrétaire départementale de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse. Alors, la droite qui a été longtemps aux affaires en Corse, qui a perdu pas mal de scrutins ces dernières années. Et tout d'abord, elle perd aujourd'hui Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, figure de la droite en Corse, des Républicains. Ça vous inspire quoi, ce départ des Républicains? C'est pas rien, c'est un petit séisme quand même dans l'île.
Alors, bien évidemment, ce n'est pas rien. Hein. Laurent Marcangeli, c'est un poids lourd de la droite en Corse. C'est le maire d'Ajaccio, l'ancien député, quelqu'un également qui a fonctionné avec la méritocratie, puisqu'il est parti de pas grand-chose et a réussi à devenir et maire et député, comme je le disais. Alors, son départ s'inscrit un petit peu au niveau national dans plusieurs départs par rapport au parti, et notamment, bon, on va se dire les choses, hein, ce matin, tout le monde est très sérieux ici, donc on va dire les choses de manière sérieuse. Ça s'inscrit par rapport à l'arrivée, je pense aussi, au poste de président du parti de Laurent Wauquiez. Alors, moi, je comprends ce départ de Laurent. Je suis persuadé, il le dit lui-même, que se mettre, entre guillemets, en disponibilité des Républicains, ce n'est pas renoncer à ses idées de droite, ni... ni partir dans un autre parti. Donc c'est une prise de distance qu'il assume, mais je ne doute pas que lors des prochaines élections, l'offre de la droite en Corse soit du même acabit, voire meilleure, dans sa diversité.
Alors c'est la fin aussi d'une époque. Bon, on parle de Laurent Marcangeli qui est assez jeune en politique, mais il y a aussi tous les ténors de la politique en Corse, comme Camille de Rocazer, qui n'est plus en première ligne, qui est quand même encore à l'Assemblée de Corse, José Rossi, qui a tiré sa révérence, Ange Santini, qui reste maire de Calvi, ou encore Sauveur Gandolfichette, hein, qui est maire de Bigouglia, mais qui n'est plus député. Fin d'une époque, ce qui veut dire que la classe politique à droite, aujourd'hui, se renouvelle.
Oui, clairement. Clairement, hein, vous le disiez tout à l'heure. Alors, bon, presque 50 ans, donc je continue de corriger. Et c'est assez amusant parce que le presque 50 ans, vous allez avoir par exemple Jean-Martin Mondolone, Stéphanie Grimal et moi-même, on a quelques mois d'écart, on est tous des 68-ards. Pas trop agressif, hein, mais des 68 heures quand même. Donc on va rentrer dans la tranche de la 50 à partir de la fin d'année. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, là aussi, il y a eu un changement et il était absolument nécessaire. Non pas parce que nos prédécesseurs ont démérité, loin s'en faut. Je prends l'exemple de José Rossi qui a été un visionnaire en son temps, notamment avec la collectivité unique, le statut Jox. Donc ce sont des avancées qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît et qui à l'époque ont été plus que décriées. Donc ça montre bien qu'il fallait à tout prix nous aussi faire notre réquest, qu'il fallait proposer autre chose. C'est fait. Vous avez cité les gens qui aujourd'hui sont amenés à prendre des responsabilités. Il y en a sans doute d'autres, mais il est clair que pour correspondre aux attentes d'une Corse qui, elle aussi, évolue, il fallait renouveler l'offre politique. J'espère que nous serons en mesure de porter ce discours et de convaincre les gens de ce qu'est notre droite. Je pense que c'est une droite qui a ses valeurs en Corse. Et à ce niveau-là aussi, on est sans doute sur une droite un peu plus sociale que ce que l'on peut rencontrer par ailleurs.
Oui, parce qu'en 2016, lorsque vous êtes devenu secrétaire départemental de la Fédération Les Républicains, votre objectif, dans une interview que j'ai retrouvée, était de remettre votre parti sur les rails. Est-ce qu'on en est encore loin ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déjà en marche, si on peut dire ?
Alors, on est sur les rails, mais la gare n'est pas encore à vue. Non, plus sérieusement, je crois que oui, aujourd'hui, on essaye de faire un travail de terrain pour arriver à porter notre message, à expliquer nos différences et surtout à s'adresser aux jeunes, ce qui est pour nous le véritable enjeu. Nous avons été, nous, les partis traditionnels, un peu trop brocardés, à juste titre, me direz-vous, sur le fait que nous n'arrivions pas toujours à parler à toutes les classes d'âge de la population. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être de droite et être moderne, on peut être de droite et être social, on peut être de droite et penser aux étudiants. C'est ce que nous avions fait avec, là aussi, un plan de logement étudiant sur Corté proposé. Des bourses également pour les formations qui n'existaient pas en Corse et pour que les gens qui soient obligés d'être sur le continent aient une prise en charge de leur différentiel de coûts. Donc on essaie vraiment de parler à l'ensemble des populations. Une liste de droite présente aux élections de l'Université Corté qui a quadruplé son score. Alors on était parti de 3, on est arrivé à presque 10. Mais bon, voilà, un peu moins de 3, presque 10. Voilà, donc pour vous montrer qu'on essaie d'actionner les leviers et de proposer une autre offre à la population corse.
Alors un dernier angle que je voulais aborder avec vous, on l'a vu par le passé, la droite a du mal à s'unir. Aujourd'hui, il y a deux groupes à l'Assemblée de Corse, celui qui est mené par Valérie Bozzi, dont vous faites partie, et celui de Jean-Martin Mondologne. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un petit peu dommage ou est-ce que vous estimez que bien, vous proposez chacun quelque chose, mais vous vous rejoignez sur beaucoup de choses aussi, sur beaucoup de thèmes ?
Écoutez, moi je pense que c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que il faut être aussi un petit peu stratège en politique et être un petit peu fin. S'unir pour gagner, ça semble une stratégie extrêmement viable et claire. Hein, vous proposez à chacun de laisser de côté une partie de son programme, vous allez sur le fond, vous vous unissez, vous proposez Nice, vous gagnez. Il était clair qu'au soir du premier tour, nous ne pouvions pas gagner. Il faut être un peu réaliste. À partir de ça, nous nous sommes dit, Jean-Martin, Valérie, moi et d'autres, que le mieux était de proposer un spectre, encore une fois, le plus large possible. Vous savez qu'il existe plusieurs droites en Corse, comme elles existent au niveau national, et de pouvoir proposer une offre qui corresponde, en partant d'une droite plus régionaliste qui est incarnée par Jean-Martin Mondologne, en allant vers une droite qui est un peu plus statutaire, qui correspond un peu plus aux idées aussi nationales, et que nous incarnons, que j'incarne en tout cas. Donc cette proposition-là, pour nous, c'était la meilleure offre possible pour répondre aux attentes. Par contre, sur les sujets essentiels, vous avez vu la délibération qui a été proposée à l'Assemblée de Corse sur l'article 72, l'inscription de la Corse dans la République, mais dans l'article 72, et tout ce qui va avec notre proposition qui a été bien sûr rejeté par les élus nationalistes, nous avons fait une proposition commune. Donc sur l'essentiel, nous nous retrouvons sans aucun souci. J'espère simplement que dans 3 ans, il y aura liste unique pour gagner.
Oui. Donc on se donne rendez-vous dans 3 ans. En attendant, donc, il faut arriver à rassembler l'électorat sur cette nouvelle droite qui est rajeunie, on peut le dire.
Tout à fait, oui.
Et en compagnie de notre invitée Caroline, on débute ce journal avec de la politique.
Et oui, après la réunion à Paris mardi, le cycle des rencontres hebdomadaires entre les élus corses et le gouvernement va se poursuivre et à un rythme plutôt soutenu. Il faut dire que le temps est compté avant le dépôt du projet de réforme constitutionnelle prévu mi-mars. D'ici là donc et durant un mois, plusieurs rendez-vous importants, Marion Galland, à Paris mais aussi dans l'île.
Les visites et les déplacements vont s'enchaîner durant 4 semaines. Mardi prochain, retour des élus corses à Paris pour une réunion consacrée au foncier et à la fiscalité. Le mardi suivant, 27 février, c'est Jacqueline Gourault qui est attendue dans l'île, la madame corse du gouvernement qui se rendra probablement à Ajaccio. Même s'il n'est pas encore fixé, on a appris que l'ultime rendez-vous de ce cycle se ferait à Matignon avec le Premier ministre Édouard Philippe. Mais d'ici là, plusieurs ministres sont attendus dans l'île. Le calendrier officiel n'est pas encore connu, mais Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, pourraient faire le déplacement, tout comme Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ou Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Autant dire que les choses semblent s'agiter en coulisses. Faut-il y voir un signe positif ? Difficile à dire, mais certains élus ont avoué avoir été surpris par la bonne ambiance du rendez-vous de mardi dernier.
Alors vous étiez à Paris justement mardi dernier aux côtés des autres élus corses, de Valérie Bodzi. On le voit, le calendrier est très court, peut-être trop court, d'autant que c'est aux élus de faire des propositions. Est-ce que ça va être difficile de faire quelque chose de solide, de concret en si peu de temps, un mois, c'est rien?
Clairement, ça va être extrêmement difficile d'arriver à sortir la quintessence d'un projet qui tienne la route dans un délai aussi contraint d'un mois. Ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer, parce qu'on sait très bien que ces fenêtres institutionnelles ne s'ouvrent qu'une fois par mandat, au mieux par mandat présidentiel bien évidemment. Donc à nous de prendre le train en marche. Il faudra qu'on fasse preuve de méthode et de résilience. Juste pour rebondir effectivement sur ce que vous avez dit, l'ambiance de cette première réunion a été très bonne. C'était une ambiance sereine et studieuse. On ne peut que féliciter Madame la Ministre d'avoir invité l'ensemble des forces politiques de l'île, à savoir bien sûr la tendance majoritaire, mais aussi les opposants. Et ça a permis d'avancer sur un certain nombre de sujets. Mais effectivement, vu le travail qui est à réaliser, il va falloir faire preuve de méthode, encore une fois, pour aller à l'essentiel. Si on commence à s'éparpiller sur différents sujets, nous n'arriverons pas à tenir le délai du 15 mars.
Alors, le président de la République disait lors de son discours, et il s'adressait notamment au président de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse, « Vous avez de la chance, aucune autre région n'a autant de responsabilités et de compétences que vous. Retroussez-vous les manches et faites vos preuves. » Ça veut dire ne vous arrêtez pas trop sur toutes vos revendications et certaines propositions, certainement la refonte de l'article 72 avec la Corse inscrite dedans. Retroussez-vous les manches. Pour l'instant, on ne peut pas dire que les élus corses, tous, dans leur globalité, à l'Assemblée de Corse, se sont vraiment retroussés les manches.
Bah, écoutez, je partage totalement votre point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort d'une élection qui a été déjà longue, qui s'est traduite par une majorité pourtant nette et précise, une victoire des nationalistes. Il ne faut pas aller chercher la participation ou pas. Aujourd'hui, il y a une victoire des nationalistes. Ils sont en capacité d'exercer un pouvoir que nous craignons, puisque sincèrement, l'addition de ces 3 collectivités, nous étions persuadés à droite qu'elle entraînerait une inertie, comme le bateau, une ère. Et force aujourd'hui est de constater qu'on est en plein dans cette inertie. Peu de choses se font. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en plein dans les nominations. On ne s'attaque pas au problème de l'emploi. Force est de constater qu'au niveau de l'offre qui peut être faite entre la formation et le chômage, on n'y est pas non plus, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Corse est la seule région de France où le chômage continue de progresser.
On en parlera tout à l'heure, justement.
Exactement. Bon, je pourrais continuer sur les déchets. Rien ne nous empêche aujourd'hui de traiter les déchets. Il n'y a pas besoin d'évolution institutionnelle. J'écoutais Monsieur le Président de l'Assemblée à contraste sur votre antenne le week-end dernier, et quand il nous disait qu'il attendait ces évolutions pour pouvoir s'atteler à un certain nombre de sujets, moi j'exprime mon désaccord le plus total. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Corse aujourd'hui.
Il y a les routes aussi.
Exactement, les routes, les infrastructures. On ne peut pas dire aujourd'hui que la situation des routes soit satisfaisante en Corse. On l'a encore vu dernièrement avec un article dans le Bodio. Donc ce genre de choses est prégnant partout. Et on voudrait nous faire croire que seul finalement l'évolution institutionnelle va changer les choses. C'est faux. Alors maintenant on est lancé, on va avancer. Dans le cadre de ce que nous estimons légitime, l'article 72, et seulement l'article 72. Avec, bien évidemment, là aussi, il faut balayer devant notre porte, c'est-à-dire que les aspects réglementaires existent depuis la loi de janvier 2002. Il faut qu'ils soient enfin applicables, c'est-à-dire que la Corse a la possibilité de faire certaines modifications réglementaires. Il faut que nous arrivions à franchir l'obstacle, certaines fois, de l'autre côté de la Méditerranée pour que ce soit pris en compte. Je pourrais vous citer l'exemple de l'eau et des régimes torrentiels qui ne s'appliquent pas, comme la Seine, où les solutions peuvent être adaptées. Mais pour le reste, nous sommes arrêtés sur l'article 72, qui nous semble suffisant pour répondre aux attentes institutionnelles.
François-Xavier Tchécoli, on va parler de l'ancien homme fort de la Corse à gauche. C'était Paul Giacobbi, devant la justice. Il a changé de stratégie hier dans le procès de l'affaire des gîtes ruraux. Devant la cour d'appel de Bastia, l'ex-président du conseil départemental de Haute-Corse a reconnu qu'il y a bien eu fraude au sein de l'instance qu'il dirigeait, du vol d'argent public, mais à son insu, affirmant avoir été trahi par les membres de son cabinet qui ont abusé, a-t-il dit, de la totale confiance qu'il leur avait accordée. Paul Giacobbi trahi par Dominique Viola et Dominique Domar, qui intervenaient directement dans la constitution des dossiers frauduleux, puis exercer de réelles pressions sur Jean Leitch, le directeur des services, qui a préféré tout dissimuler. C'est ce qu'il a dit hier à la barre. Paul Giacobbi trahi, ignorant toute fraude. L'avocat d'Anticor, c'est l'association de lutte contre la corruption des élus qui est partie civile, n'y croit pas. On écoute maître Jérôme Carcinti au micro de Pierre-Louis Sardi.
Ça n'est pas vrai. Ce qui est vrai, probablement, c'est que le cabinet avait un rôle anormal. Mais ce qui est vrai surtout, c'est que M. Paul Giacobbi non seulement le savait, mais l'a couvert. Et donc sa participation est directe. Il y a un système clientéliste, bien sûr. Tous les gens qui ont bénéficié de ces gîtes sont des proches, soit localement de M. Giacobbi, soit des membres du cabinet de Paul Giacobbi. C'est donc que, bien sûr, il y avait une entente sur le fait que ces gîtes, ces subventions, étaient discrétionnairement attribuées aux bénéficiaires qui étaient proches du pouvoir.
Donc ils savaient tout, selon vous ?
Oui. Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. En tout cas, je vais dire très très clairement, s'il ne savait pas, c'est qu'il a fermé les yeux, les oreilles et la bouche. Et ça, c'est inadmissible pour un représentant public.
Alors, je vais être direct, vous êtes maire. Alors, une mairie, c'est une bien plus petite structure qu'un conseil départemental. Pourriez-vous, en tant que maire, ignorer qu'au sein de votre mairie, l'un de vos conseillers s'adonne à des malversations, puisque je suppose qu'il faut votre signature ?
Alors, écoutez, certaines fois, ça peut fonctionner par délégation. Donc, il peut y avoir des signatures, et c'est même plutôt louable, notamment sur des sujets pour que le maire ne fasse pas tout lui-même. Des délégations qui font que... Mais à l'échelle d'une commune comme la mienne, ça paraît improbable. Ce serait difficile d'ignorer que des choses se passent de ce niveau-là, en tout cas, et de prétendre que seule la personne incriminée est responsable. Concernant l'affaire en cours, et bien évidemment sans rentrer dans le détail du futur jugement, parce que je vous le rappelle, on est encore en plein dans le procès d'appel. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que finalement, il y a des gens qui sont absents, des gens qui sont décédés.
Il y en a deux.
Voilà. Et aujourd'hui, finalement, on est en train de nous expliquer que ce sont les seuls coupables, que ce sont quelque part les fossoyeurs du département de la Haute-Corse, que tout a été fait par eux. J'ai un peu de mal à croire tout ça. Je pense que le système clientéliste a existé, pas seulement sur cette affaire. Il a existé au Conseil général, à la CTC. Le nier, ça me paraissait pas une bonne stratégie. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que maintenant, M. Jacob ne le niait plus. Simplement, il disait que ce n'était pas lui. Moi, j'aimerais qu'il y ait un petit peu de respect pour les gens qui sont décédés, encore une fois, qui ont peut-être ou pas, mais eux, malheureusement, ne sont pas là pour se défendre.
Alors, pour élargir un peu le sujet, certains élus, comme des maires d'ailleurs, se sont retrouvés devant la justice, mais eux, ça a été plutôt par ignorance, principalement dans des affaires de marché public. Ils ne connaissaient pas toujours les procédures à suivre, ils ont fait des erreurs. C'est difficile, justement, quand on est élu, de ne pas faire des erreurs par exemple, un marché public parce qu'on n'a pas les services dans des petites communes qui vont le faire à notre place ?
Écoutez, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée parce qu'effectivement, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que le parquet va avoir une lecture qui est de dire « nul n'est censé ignorer la loi ». Et c'est vrai que pour des petites communes comme les nôtres qui n'avons pas un directeur des services techniques, un conseiller juridique ou autre, chaque fois que nous allons aller vers une démarche administrative, alors vous avez parlé des marchés publics, mais ça peut être vrai pour toute autre chose, il peut arriver qu'une erreur se produise tout simplement par omission ou par méconnaissance. Mais sachez que ça a un effet qui n'est pas neutre. Quand vous allez avoir des élus qui sont plutôt regardants sur la morale, il va nous arriver de retarder un marché, il va nous arriver de relancer une consultation, il va nous arriver de faire marche arrière, tout simplement parce qu'on va avoir la crainte, à un moment donné, d'être poursuivi de bonne foi, tout simplement parce que nous aurons fait une erreur. Alors, là aussi, je pense qu'il serait bon qu'il y ait quand même une différenciation entre ce qui est manifeste, ce qui est important, ce qui est crapuleux, et peut-être ce qui découle plus de une méconnaissance administrative, quelque chose sans enjeu, sans enrichissement personnel. Le problème aujourd'hui avec la loi, c'est que finalement, vous pouvez être condamné parce que vous avez acheté le stylo en dehors du cadre juridique de l'achat du stylo. Je plaisante à peine.
Alors, on va terminer avec le 4e forum de l'emploi et de l'alternance qui se déroulait hier au Palais des Congrès. Manifestation qui était organisée donc par Pôle emploi, le CFA universitaire, la collectivité de Corse ou encore la CAPA. 800 offres d'emploi étaient à pourvoir cette année, donc c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, au niveau de l'emploi, qu'est-ce qui manque en Corse? Parce qu'on l'a vu, vous l'avez déjà dit, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi par rapport à la population. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une politique qui va être mise en place pour le chômage? Parce qu'on a vu la réponse de Jean-Guy Talamogne, justement dans l'émission Contraste dimanche, c'était assez vague. Donc on se demande si pour l'instant le sujet a été pris à bras-le-corps par les élus.
Je pense très sincèrement que pour les grands sujets économiques, la majorité actuelle fait preuve d'un petit peu d'amateurisme. J'ose le mot. On voit bien qu'au niveau de la commande publique, on est quasiment à l'arrêt. On voit bien qu'au niveau de l'aide aux communes, on est quasiment à l'arrêt. Donc, c'est peut-être méconnaître la relation forte qui existe entre une économie qui fonctionne et un chômage qui diminue. Alors, pour répondre rapidement à votre question, moi, sur justement l'apprentissage et autres, j'ai une vision très précise. Quand j'étais encore ingénieur et que l'université de Corté a eu besoin de créer l'IUT de génie civil, j'ai été l'un des premiers professeurs puisqu'il manquait un professeur en construction. Donc, en tant qu'ingénieur, j'y ai participé les 3 premières années. Et c'est l'exemple type, l'IUT de génie civil, de comment mettre en place une formation sur un marché qui a besoin de cette formation-là. Exemple simple, nous étions en plein PUI, il fallait des techniciens, il fallait des ingénieurs, il fallait des techniciens. On les a créés. Et je peux vous dire que sur des promotions de 30 élèves, maintenant j'ai perdu le fil, bien évidemment, puisque ça marche très bien, mais vous n'aviez aucun chômeur à l'arrivée. Et pour certains, pour les meilleurs, vous arriviez même à avoir 3, 4, 5 ingénieurs.
Donc en gros, il faut prendre en compte les besoins en Corse et voir ce qu'on peut faire en fonction des besoins, c'est ça?
Exactement, en tout cas pour partie. Il est bien évident qu'on ne peut pas obliger les gens à rentrer dans un cadre. Les études aussi, ça doit être une liberté. Mais pour ce faire, vous savez qu'il y a 5000 postes, plus de 5000 postes qui ne sont pas aujourd'hui fournis, alors qu'on compte plus de 20 000 chômeurs. Je crois que c'est 22 000 exactement.
Oui,
donc ça vous montre bien que cette politique... Mais encore une fois, il faut faire preuve de pragmatisme. On a voté à l'Assemblée de Corse l'objectif zéro chômeur. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas, zéro chômeur. Tout le monde s'entend pour dire que dans n'importe quelle économie libérale dans ce monde, quand on est à 3 ou 4%, on est au minimum. Donc, voyez, pragmatisme, allez dans le bon sens.
François-Xavier Tchekol, ce rendez-vous touche à sa fin. Une heure, c'est rapide. Merci d'y avoir participé, d'avoir pris le petit déjeuner avec nous, Jean-Michel Fradici.
Merci à vous.